wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Anna Sigalevitch et Fabienne Pascaud se font face à notre affiche Antoine et Cléopâtre, d'après Shakespeare, mais dans une version revue très largement par Thiago Rodriguez, qui l'a mise en scène, c'est au Théâtre de la Bastille à Paris. Nous parlerons aussi de Don Juan de Molière, mise en scène de Jean-François Sivadier à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Nous évoquerons aussi plus rapidement le portrait de Lucinda Childs dans le cadre du Festival d'automne à Paris, et puis Iphigénie Antoride de Goethe, mise en scène par Jean-Pierre Vincent, actuellement en tournée. Vers 21h20, nous retrouverons Lucille Como dans le Petit Salon pour débattre d'un sujet dans l'actualité culturelle. Lucille Como qui passera également en fin d'émission un coup de fil à Yannick Jolin pour parler avec lui du spectacle Les Oisives, mise en scène par Anne Marcel. Bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition spectaculaire Second Empire 1852-1870. Ça commence demain et ça dure jusqu'au 15 janvier au Musée d'Orsay à Paris. Et nous ouvrons, on va trouver le bon endroit pour parler de cette émission avec un habitué du Théâtre de la Bastille à Paris, théâtre qu'il a merveilleusement occupé au printemps dernier, dans lequel il revient pour présenter en version française le spectacle qui avait ému pour bonne part le Festival d'Avignon 2015, Antoine et Cléopâtre, inspiré notamment par la pièce de William Shakespeare. La pièce était alors jouée en portugais à Paris. Thiago Rodriguez, puisque c'est celui dont il s'agit, propose la VF, la version française, dans le cadre du Festival d'automne, avec les deux mêmes interprètes, Sofia Diaz et Victor Roriz.
Trois ou quatre navires de César encerclent le vaisseau d'Antoine.
Les soldats d'Antoine se défendent contre l'abordage avec des lances et des traits enflammés.
Agrippa perce le bloc de la flotte égyptienne et divise l'armée d'Antoine.
Ceux d'Antoine tirent à la catapulte depuis le navire.
Les chances de victoire ressemblent à deux jumelles qui sourient de part et d'autre.
Celui-là coule, celui-là brûle.
Des hommes sautent des navires en feu.
Des cœurs brûlés flottent sur les vagues.
Des cris de supplice, des cris de guerre et des cris d'adieu.
Cléopâtre.
Antoine.
Cléopâtre.
Antoine.
La bataille est encore incertaine, mais Cléopâtre s'enfuit.
Antoine.
Le navire de Cléopâtre fait demi-tour.
Antoine voit Cléopâtre s'enfuir.
L'arrière-garde de la flotte égyptienne fait demi-tour et accompagne Cléopâtre.
Antoine voit des dizaines de navires égyptiens abandonner la bataille.
Cléopâtre profite les vents favorables et cingle vers le Péloponnèse.
Antoine voit son ombre s'enfuir.
Cléopâtre.
César attaque, Agrippa attaque.
Cléopâtre.
Antoine décide de s'enfuir lui aussi. Cléopâtre.
Antoine. Cléopâtre. Anna Sigalevitch. Vous l'aviez pas vu à Avignon.
Cléopâtre. Non, je ne l'avais pas vu.
Vous l'avez découvert en VF.
À Avignon, donc j'ai découvert le spectacle en effet en VF. Alors, j'ai quand même vu tous les autres spectacles de Thiago Rodriguez, hein, tiens à le préciser. On avait d'ailleurs débattu avec Fabienne, me semble-t-il, de...
Emma Bovary.
De Bovary, qui nous avait toutes les deux beaucoup, beaucoup enthousiasmées.
Tout à fait.
Et toutes les trois, si je peux.
Mais oui, Arnaud, toutes les trois.
Tous les trois.
Et ces autres spectacles aussi, By Heart, c'est un spectacle sur les sonnets de Shakespeare où il faisait venir quelques spectateurs sur scène, où il leur apprenait quelques sonnets de Shakespeare, était assez brillant. Là, c'est autre chose, mais en même temps, c'est ce qui est intéressant avec Thiago Rodriguez, c'est que ça ne ressemble pas du tout ni à Bovary, ni à By Heart. Mais en même temps, les interrogations qui sont faites, qui sont en jeu sur le fait de jouer, du rapport au personnage, à l'incarnation, etc., sont là. C'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui... Voilà. Alors, ce spectacle, il frôle un tout petit peu l'exercice de style. Voilà, il ne pourrait être qu'un exercice de style. Mais en fait, je dois dire que je l'ai vu vendredi soir et depuis, peu à peu, il s'est déposé en moi. Et plus j'y pense et plus je l'aime. Voilà, parce que c'est un spectacle, me semble-t-il, qui raconte plein de choses et sur l'amour et sur le jeu. Donc pour expliquer un petit peu aux auditeurs, c'est très simple. On a donc deux comédiens, enfin en tout cas qui jouent, qui sont des chorégraphes.
Et danseurs,
mais qui là jouent. Mais du bougent texte. Aussi un peu comme des danseurs, mais bon, jouent. Et au départ, donc quand ils entrent en scène, chacun décrit l'action de l'autre. Donc comme on a entendu dans cet extrait, Antoine dit... c'est la femme qui dit Antoine et qui décrit ses actions, mais qui ne sont pas non plus incarnées par Antoine, enfin par l'homme. Oui. c'est pas évident à expliquer, mais en fait, l'autre n'est pas exactement l'autre. L'autre est plutôt, au départ, dans les bras de celui qui l'annonce, un petit peu comme une marionnette, invisible. Et petit à petit, on va glisser, peu à peu, sans que les choses et les rôles soient jamais totalement définis, mais vers une certaine incarnation, puis à nouveau une distanciation, une incarnation, etc. Et ce que met en jeu, je pense, Thiago Rodriguez, c'est ça, c'est comment on rentre dans un personnage, quelle place a l'acteur face à son rôle, comment il le cherche, comment il le trouve, comment il s'en détache, etc. Et il y a notamment, je trouve, quelques moments qui sont très, très amusants dans le spectacle, enfin qui sont même plus qu'amusants, qui sont assez beaux, c'est... Quand Antoine et Cléopâtre, enfin en tout cas elle et lui, je dirais plus d'ailleurs elle et lui que Antoine et Cléopâtre, quand elle et lui, à un moment donné, ils disent que Antoine et Cléopâtre s'allongent et s'endorment, et en fait ils donnent vraiment à voir Antoine et Cléopâtre qui sont allongés et qui dorment. On les voit, nous spectateurs, et eux sortent, ils les laissent dormir et ils vont sur le côté, sur un banc, boire un petit verre d'eau. Ils font une pause des personnages, voilà, et les personnages font leur nuit et après ils vont les retrouver. Voilà, ça c'est un détail, je trouve, qui donne à voir vraiment l'esprit du spectacle.
Fabienne Pascaud, sur ce Antoine et Cléopâtre.
Oui, je trouve que Anna en a très bien parlé, très bien expliqué. La magie de ce spectacle à Avignon, ça tenait aussi à l'adaptation, parce que finalement, c'est assez merveilleux de voir comment Thiago Rodriguez, en 1h30, parvient à rassembler et Plutarque et Shakespeare avec deux seuls comédiens. Il nous fait revivre l'histoire de cette époque-là, la bataille d'Axium, toutes les démêlés d'Antoine avec l'Empire, la passion qui les hante tous les deux, la jalousie de Cléopâtre face à l'épouse d'Antoine, et tout ça avec rien, avec deux corps, avec la manière de faire parler l'un et de faire parler l'autre, de jouer, de ne pas jouer des personnages, une distanciation ou pas. C'était féerique quand on a vu ça à Avignon. Donc je suis retournée à la Bastille avec ce souvenir de spectacle qui m'avait vraiment hypnotisée, parce que à travers l'histoire d'amour d'Antoine et de Cléopâtre, il racontait aussi bien Titus et Bérénice de Racine, il racontait toutes les histoires d'amour et de séparation. Donc ça avait quelque chose de légendaire et de métaphorique qui était vraiment envoûtant. Et je dois dire que même si c'est les mêmes acteurs, est-ce que c'est le charme de la langue portugaise? Est-ce que c'est le fait de le revoir deux fois? J'ai moins été séduite. Il faut quand même dire que la comédienne était enceinte à l'époque. Donc ça ajoutait à Avignon, à la sensualité. J'ai l'impression qu'il bougeait plus à Avignon. Donc il y avait toute cette chorégraphie des corps. Là, je les ai trouvés plus immobiles. Et le décor moins magique pour le coup. Donc j'ai été un petit peu déçue. Même si, ça, j'imagine que pour un regard qui le voit pour la première fois, la magie opère. Pour moi qui le retrouvais, petite déception, mais qui est due aussi pour ce spectacle qui joue vraiment avec la musicalité des sons, avec cette sensualité de la langue et des mots, au fait que le portugais soit quand même beaucoup plus beau que le français à l'écoute.
Oui, pour cette langue-là, alors on a trois cas de figure, parce que Anna, vous l'avez vu seulement à Paris, Fabienne à Avignon à Paris, moi seulement à Avignon, j'ai pas pu le revoir à Paris pour des raisons diverses d'agenda.
Ne voyez pas. Gardez votre magie.
C'est ça, parce qu'effectivement, je me retrouve dans ce que disait Anna Segalevitch, c'est que plus le temps passait, et plus le temps a passé, et plus ce spectacle s'est imprégné en moi. Je suis sorti du spectacle qui m'avait plu, mais peut-être sans plus. Et effectivement, il a vraiment agi comme un filtre d'amour, quoi, au fur et à mesure des jours. Parce que d'une part, il y a cette question de on voit tout. C'est quand même assez fascinant parce qu'il arrive à nous raconter absolument tout ce que vous avez évoqué, bataille, paysage, enfin, tout est présent sur le plateau alors que pour le coup, il n'y a vraiment rien. Il y a effectivement ces réminiscences alors, de Shakespeare, de Plutarque, mais aussi du film de Mankiewicz. On voit aussi bien Richard Burton, Elizabeth Taylor. On a la BO, quelques moments sur le tourne-disque. On entend cette bande originale du film de Mankiewicz. Et ce qui est très fascinant, mais pour tous les spectacles de Thiago Rodriguez, c'est effectivement, même si ça peut se nourrir du passé, comme pour les sonnets de Shakespeare, comme pour Bovary, comme pour Antoine et Cléopâtre, c'est un théâtre du présent. C'est-à-dire que vraiment, on a une sensation que ça se passe à ce moment-là, que c'est une chose à laquelle on assiste, qui est fondamentalement ancrée dans ce moment-là, et ça, dans le présent, ce qui fait que c'est une chose extrêmement précieuse. Je vois que Lucille opine, mais vous l'avez vu une fois, deux fois, Lucille, comment ?
Je l'ai aussi découvert vendredi dernier, j'étais à la même représentation que Cana, donc je l'ai vu en français seulement. Et en effet, ils disent eux-mêmes, les acteurs disent, on entre dans le présent, je sors du présent, donc ça a accentué cet effet-là.
Le texte est publié en solitaire d'Intempestif, ce texte de Thiago Rodriguez, que j'avais relu après le spectacle. Mais je dois dire que le souvenir de la langue portugaise, j'avais quelques appréhensions à le découvrir en français. Bon, j'ai pas pu pour l'instant, j'ai peut-être quand même y aller, mais il y avait une spira,
c'est pas. Oui, mais ils ont toujours leur accent, donc ils font toujours spira en français. Bah oui.
Ah bon.
un peu moins, sûrement. J'ai pas entendu en portugais. Non mais Anna, écoutez, moi je dois vous dire que j'ai quand même trouvé ça très très sensuel, voire
hyper sensuel.
Non mais même en français. Enfin, donc je l'ai découvert. Je comprends Fabienne.
C'est torride.
Mais moi j'ai trouvé ça torride. Franchement,
c'est
j'ai trouvé ça
torride. D'une énorme sensualité.
Mais d'une sensualité démente. C'est-à-dire que cette la dernière partie, moi j'ai rarement ressenti ça au théâtre, surtout ressenti ça après, encore une fois, ce qui est assez étrange. C'est-à-dire, pour expliquer donc à nouveaux auditeurs, ça commence par cette dernière partie par le principe de trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule,
quand même,
etc. C'est performatif, mais c'est quand même un grand coït.
Un coït performatif.
Non, mais c'est un grand coït, c'est-à-dire qu'ils sont là. Donc ça commence à l'unisson. Donc attendez, je vais essayer de vous. Parce que vous savez que je prends mes notes. Alors attendez. J'ai sûrement pris mes notes. Oui, donc ils commencent et puis ils disent voilà, tout cela, du son, puis son, oiseau, c'est faux, dévie ta vie. Bon, genre, je sais pas, peu importe, je le fais mal, mais donc ils font ça. Et en fait, donc ils sont à l'unisson et puis petit à petit, ils se décalent. Et puis ça monte, et puis ça accélère, et puis ça décélère, et puis tout d'un coup ça explose. Puis après ils sont fatigués, et ça reprend. Non mais franchement c'est vraiment la métaphore d'un acte d'amour, quoi. Ouais. C'est quand même étonnant de voir ça sur une scène avec des gens en jean, en basket qui se touchent pas, quoi.
Ouais. On est d'accord. Voilà. Lucille, comment ?
Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau spectacle. Et aussi, je pense, dans le contexte où je l'ai vu, c'est-à-dire un contexte où, récemment, j'ai vu que des gros spectacles avec énormément de moyens, avec des micros, avec de la vidéo, des gros éléments de décor. Là, c'est en effet, la scène est nue. Il y a une sorte de mobile.
Moi, j'ai toujours la même réserve pour Thiago Rodriguez. C'est la scénographie, les décors. Pour moi, on n'a pas le même goût. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est la seule chose qui ne me convient pas.
Mais de fait, on se retrouve vraiment avec des réflexes purs de la représentation théâtrale, quoi. Des personnes qui sont sur scène, ça se pose comme ça, et ça fait réfléchir beaucoup justement sur la question de la représentation théâtrale.
Pour moi, la magie, c'est la puissance de son adaptation, qu'il arrive à recréer ce monde et tout ce qui se passe de Rome à Alexandrie avec deux acteurs, quoi. C'est phénoménal, la force de son écriture est c'est un art, hein. Comment il a pu adapter tout ça. Et bizarrement, moi, ce que je retiens surtout à la deuxième vision, c'est la musique de Mankiewicz, qui est entêtante qui épouse complètement la parole des acteurs. C'est quand même très beau.
Non, parce qu'il faut, il faudrait pas que vous dissuadiez.
Ah non, faut y aller. C'est quand même très beau.
Non, c'est absolument magnifique. Non, mais je vais quand même essayer d'y aller. Anna Segalevitch,
oui,
encore un mot.
Dernier mot, c'est vraiment un spectacle sur la pénétration, quoi. Sur la pénétration.
Décidément,
Mais non, mais c'est vrai. On est pénétré par le regard de l'autre, qui est tantôt en miroir, qui est tantôt l'autre. On rentre dans lui, on est pénétré par son personnage, on en sort, la musique aussi. Enfin, c'est ça.
Puis c'est quand même une histoire de conquête.
En même temps, moi, façon, ça m'a évoqué un peu le mépris de Godard. Il y a un côté nouvelle vague dans sa manière d'aborder les choses. Et elle fait presque penser à Brigitte Bardot, parfois, dans le mépris. Elle a un truc comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. C'est très étonnant, quand même.
Le dialogue en travelling avec la lumière qui s'allume et qui s'éteint dans le mépris, ces allers-retours entre lui et elle.
Pareil.
Ouais, ben oui. Entre Michel Piccoli et Brigitte Bardot, là, c'est Vittor Roriz et Sofia Diaz. Alors effectivement, c'est vrai que sa maternité à venir rajoutait en effet quelque chose. Enfin, elle ne peut pas être enceinte à chaque fois qu'elle joue ce spectacle. Sofia Diaz, c'est pas possible. Bon, il faut aller à la Bastille. On est d'accord pour découvrir Antoine et Cléopâtre. Alors, avec des citations de William Shakespeare, avec un texte surtout remanié par Thiago Rodriguez, texte qu'on peut trouver donc au Solitaire intempestif. Thiago Rodriguez qui fait signe la mise en scène. Au Théâtre de la Bastille jusqu'au 8 octobre, c'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Il faut le signaler. Ensuite, il sera à Bruxelles en version anglaise. On y va, Fabienne ?
Bah allez, tentons.
Pourquoi pas ? Ce sera du 13 au 15 octobre. Puis de nouveau en France, 4 et 5 mai au Maillon, à Strasbourg, puis en Suisse, à La Chaux-de-Fonds et à Mérin. Ça, ce sera au mois de mai.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous parlerons tout à l'heure de Don Juan de Molière dans une mise en scène de Jean-François Sivadier à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Nous évoquerons aussi plus rapidement le portrait de Lucinda Childs dans le cadre du Festival d'automne à Paris et Iphigénie en Tauride de Goethe mise en scène par Jean-Pierre Vincent. Pour l'heure, suivons Lucille Comeau dans le Petit Salon. Enregistré, capté, diffusé. Non, je ne parle pas de radio, je parle de théâtre, Lucille Comeau.
Tout à fait. Enregistré. Depuis quelques années, on peut aller voir au cinéma des opéras qui sont retransmis en direct. On en parlait l'autre jour avec Anna Sigalevitch ici présente. L'initiative est un succès et ça a donné des idées à la Comédie Française qui va dès octobre prochain, dans quelques jours, proposer régulièrement des diffusions de ses spectacles dans près de 300 salles du réseau Pathé. Le spectacle sera retransmis aussi en direct par voie satellite en haute définition et en son 5.1, ce qui garantit une réception optimale selon les deux nouveaux mariés, Éric Ruff à la Comédie Française et Jérôme Sédoux chez Pathé. Le 13 octobre prochain, on pourra donc se rendre dans une salle obscure pour assister à la représentation de Roméo et Juliette dans une mise en scène du susnommé Éric Ruff. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller voir du théâtre au cinéma ? Alors on peut prendre appui justement sur cet exemple de l'opéra. Apparemment le partenariat fonctionne fort bien, on réserve à l'avance sa place, on débarque en smoking et on peut même boire une petite coupe pendant l'entracte. Mais en fait, la comparaison a ses limites. Déjà parce que ce qui est diffusé au cinéma, ce sont des opéras ou des ballets, la plupart du temps créés ailleurs, au Met ou au Bolshoï, donc inaccessibles pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas des professionnels du spectacle vivant. Il y a donc un intérêt véritable à voir au cinéma des productions que sinon on ne pourrait pas voir. Les spectateurs sont des amateurs d'opéra, probablement les mêmes qui peuplent les opéras Bastille et Garnier quand ils en ont l'occasion et les moyens. Alors que la distance entre la représentation et sa retransmission dans le cas de la Comédie Française sera nettement moindre, l'enjeu est donc différent. Le principe, selon Éric Ruff, serait donc d'attirer un public qui ne va pas au théâtre parce qu'il habite loin ou parce que ce n'est pas une habitude culturelle. Si la question est seulement celle de la distance, on pourrait faire remarquer que les spectacles sont habilités à tourner, que le réseau des scènes nationales est fort serré, comme les salles pâtées, on pourrait dire, et que la Comédie Française pourrait peut-être faire en sorte de davantage délocaliser ses spectacles. Mais au-delà de ces considérations pratiques, est-ce que c'est vraiment la même chose d'aller voir de l'opéra et du théâtre sur un grand écran ? L'opéra a quelque chose de l'expérience cinématographique, c'est un théâtre total en plusieurs dimensions, mais la représentation théâtrale est différente et je me demande si la distance sur laquelle repose la nature même du spectacle ne sera pas compromise par la forme de la salle obscure.
Oui, question. Effectivement, je vois sur vos notes que les damnés vont être transmis sur France 2. Je me disais, faire les damnés au cinéma aussi. Avec un spectacle qui travaille autant sur les écrans déjà, comment est-ce qu'ils vont faire ? Ça va être quand même quelque chose. Plus généralement, Fabienne Pascaud, sur ce nouveau mariage pâté Comédie Française, déjà ?
En termes de démocratisation culturelle, on ne peut qu'applaudir. C'est sûr que la Comédie française a du mal à tourner. Avant, je crois qu'il y avait des tourneurs privés, parce que c'est très compliqué pour cette maison. Notre premier théâtre national, paradoxalement, c'est difficile de tourner.
Il y a des raisons pratiques, quand même, rappelons à cela, parce que le principe d'alternance fait que les comédiens jouent souvent dans plusieurs spectacles à l'affiche des différentes salles de la Comédie française. Donc, partir en tournée, ça pose vraiment des casse-têtes d'agenda.
C'est vrai. C'est
voilà, juste c'est vrai.
Ne faisons pas de mauvais esprit, c'est vrai.
Une énorme question de coût, parce qu'il y a une convention collective qui est propre à la Comédie française, qui fait que les coûts de la production technique sont majorés. Non, mais c'est vrai.
Voilà, il y a vraiment quelque chose. C'est ça aussi. C'est les drames des conventions collectives des théâtres nationaux. Hein, ouais. Ça, il faut quand même le dire. Donc, ça coûte moins cher de passer tout ça au cinéma, et ça embête moins les syndicats. Donc, c'est aussi une façon d'envisager le problème. Il faut que ça soit bien filmé, quoi. C'est toujours il y a quand même pour de l'opéra, il y a une magie en plus des voix, de la musique. Je pense pas qu'on attende autant que ça soit aussi facile de redonner la magie d'une simple représentation de théâtre avec juste les corps des comédiens, juste leur timbre. Il y a sans l'apport de cette musique, de ces grands ténors, de cet orchestre. J'ai l'impression, je suis pas sûre que moi-même je me déplacerais au cinéma. J'ai honte de le dire et je vais pas faire plaisir à la Comédie française et à Eric Ruff. Mais d'abord, c'est très très difficile de filmer le théâtre et beaucoup s'y cassent les dents. On voit quand ça passe à la télévision, ça fait des scores calamiteux parce que les réalisateurs savent pas. Ils vont vers les gros plans alors que la magie du théâtre, c'est aussi les plans d'ensemble, c'est aussi pouvoir tout voir de loin et pouvoir choisir soi-même là où on met son focus et son objectif et qui on regarde. Donc, pour moi, c'est un petit peu antinomique, théâtre et cinéma. J'ose le dire, c'est pas très politiquement correct.
Mais vous êtes là pour vous dire ce que vous pensez, surtout.
Voilà.
Donc, c'est votre sentiment sur cette question. Le mien est légèrement différent, mais pas tout à fait. Adrien Segalevitch ?
Et ça dépend comment on considère les choses. Bon, déjà, c'est en direct.
Pas tous. C'est-à-dire qu'il y aura des spectacles qui seront diffusés en direct. Après, il y aura des retransmissions, parce que c'est pas possible de faire autant de dates avec...
Parce que la notion de direct est vraiment très importante.
Ouais.
Enfin, moi, je suis allée plusieurs fois assister à des opéras
au cinéma. Ah oui, mais
là,
c'est en direct, là, ça ne le sera pas.
Ça dépend,
voilà.
Mais pour les opéras, ça dépend, et pour la Comédie française, ce sera rarement le cas.
Quand ça se passe en direct, je trouve que ça a vraiment un sens, parce qu'il y a une tension qui fait qu'on est avec les interprètes, et que l'excitation est là. Parce qu'évidemment, il y a du danger. Donc, quand
une
y a
extension
du danger,
de la salle, pour le
voilà,
coup, véritablement.
Oui, et puis on aime avoir peur pour les acteurs, pour les chanteurs. Enfin, la notion de danger est fondamentale quand on voit une représentation. Donc de perdre ça, effectivement, c'est compliqué. Après, pour moi, c'est extrêmement précieux d'avoir la matière de certaines mises en scène. Enfin, quand on pense au grand coffret de la Comédie française, justement, avec toutes les mises en scène de Jacques Charon, avec certaines mises en scène de Vitesse, auxquelles on n'aurait jamais eu.
Jean-Paul Roussillon.
Jean-Paul Roussillon, exactement. Donc, quand on n'est pas de la génération qui a pu aller voir ça à la Comédie française, ça disparaît. Et vraiment, ces mises en scène, justement, vous parlez de Jean-Paul Roussillon, ça éclaire les mises en scène d'aujourd'hui. Enfin, on voit comme, par exemple, Jérôme Deschamps, c'est inspiré du fil à la patte
de Charon.
Donc, moi, je trouve que c'est très important pour se faire sa culture d'avoir accès à des vidéos, des représentations passées. Et puis, quand même, je pense qu'on va emmener des enfants au théâtre, etc., des adolescents qui n'iraient pas. Le cinéma, c'est un peu plus facile, c'est autre chose. Pourquoi pas ?
Lucille, comment ?
Mais précisément, alors c'est en effet un des arguments aussi.
C'est beaucoup pour les scolaires, j'imagine.
Voilà, pour les scolaires, mais fait, c'est l'expérience n'est pas du tout une expérience théâtrale. Enfin, les enfants, s'ils ne sont jamais allés au théâtre, ils ne seront pas plus allés au théâtre. Enfin, à mon avis, en allant voir un spectacle sur grand écran qui n'est pas diffusé en direct un après-midi, autant les amener voir du vrai cinéma et puis du vrai théâtre.
Non, mais là, ils auront un vrai texte de théâtre,
pour le coup.
Une représentation théâtrale, certes filmée par le prisme de l'écran, mais ils auront quand même le texte de Shakespeare dans la traduction, je ne sais plus laquelle.
Mais d'ailleurs, les textes qui sont choisis, on voit bien que l'utilité est scolaire, parce que donc après Roméo et Juliette, il y aura le misanthrope, et puis après, ce sera Cyrano de Bergerac, donc le choix des spectacles.
Donc en tout cas, ils auront ce contact avec le texte, qu'ils n'auraient pas. d'une autre façon.
Mais c'est vrai, ce qui est très important, c'est que les réalisateurs n'essayent pas de faire les malins, parce que ça peut ruiner...
Ça, c'était toute la politique de Muriel Mayette, de leur demander à certains metteurs en scène de revoir...
C'est encore autre chose,
mais c'était pas mieux non plus.
Pour faire des films avec des pièces à l'affiche du français, Mathieu Amalric l'a fait, Vincent Macaigne l'a fait...
Oui, Valéria Bruni l'a fait.
Le théâtre, c'est le théâtre.
Valérie Donzelli.
Valéria Bruni l'a fait avec les trois sœurs aussi.
Vincent McCain l'a fait pour Don Juan.
Oui, pour Don Juan.
Ouais, mais c'était des films, c'était autre chose. Après, il y a Stéphane Brunschweig, depuis très longtemps, au TNS, il le fait à la colline, fait des captations de tous ses spectacles.
Oui, mais c'est plus modeste.
Oui, non, mais moi je trouve que c'est important de constituer
cette
archive,
en effet. Ce que disait Anna, c'est des archives essentielles. Et c'est bien.
Et c'est, normalement, ce serait la télévision de service public de diffuser plus régulièrement. Il y a une époque, il y avait une case le dimanche matin sur Arte. Moi, j'ai vu des mises en scène d'Antoine Vitesse, les années 80, à Chaillot. Voilà, que j'avais pas vu, évidemment, j'étais provincial. Et c'est absolument formidable de pouvoir voir son électre, de pouvoir voir enfin, des grandes mises en scène auxquelles je n'aurais jamais eu accès si elles n'avaient été filmées. Alors effectivement, il ne faut pas faire le malin. Il y a des exemples mauvais, on en a parlé. On a parlé notamment des dernières, mises en scène de Patrice Chéreau, à mon avis, très mal réalisées par Stéphane Menge. Il y a de très bons réalisateurs, que ce soit pour l'opéra ou pour le théâtre. Il y a Don Kent, il y a quelques-uns qu'on connaît.
Et puis à la télévision, c'est gratuit.
Oui, et puis à la télévision, c'est gratuit, contrairement au cinéma. Vous avez raison.
Bien sûr.
Bon, c'est important que ça existe. Je crois, je vous suis là-dessus. Fabienne Pascaud, non.
Moi, le théâtre, au cinéma, non.
Mais vous pourrez montrer à votre fils des mises en scène d'Antoine Vitesse aussi.
C'est bien que ça meure et puis que d'autres créateurs arrivent.
Carrément radical.
Allez, mais c'est ça la beauté du théâtre, c'est que ça soit éphémère et que ça n'existe plus que dans la mémoire.
Non, mais en plus, ça, c'est la question de la captation. C'est pas exactement la même chose que la question du cinéma et de l'événement pièce au cinéma. Évidemment, la question de la captation, c'est une question de patrimoine, de conserver quelque chose. Là, je crois pas du tout que ce soit l'idée du partenariat.
C'est vrai. Non, mais là, c'est
faire événement autrement au cinéma.
J'ai dévié à partir de la question initiale. C'est vrai, je vous l'accorde. Maintenant, il faudra enquêter, Lucille, sur la réception de ces projections organisées par la Comédie Française Épatée. Il faut voir dans combien de salles, vous avez dit, plutôt 300 salles.
Oui, 300 salles. Donc, la première date, c'est le 13 octobre.
Ça va quand même toucher des communes peut-être loin de ce type de théâtre. Donc il faudra aller voir les réactions. Et on le saura quelques années plus tard. On aura des articles qui nous diront « Quand j'étais petit, j'étais à l'école, au cinéma Pâté, j'ai vu... » Eh ben oui, ça peut commencer comme ça aussi, les vocations. Bon, à suivre. C'est l'heure à présent d'autres recommandations, celles faites par nos critiques présents et présentes en l'occurrence ce soir. On était dans le Festival d'automne, on y reste avec vous, Anna Segalevich, pour parler danse.
Oui, pour parler danse et pour parler de Lucinda Childs, qui est une grande chorégraphe majeure et qui n'est pas si connue en fait du grand public que ça, je trouve, au regard de l'importance de son œuvre. Alors depuis quelque temps, ça vient, mais on a relativement peu vu ses chorégraphies, et donc là voilà, depuis ces dernières années ça vient, elle est vraiment célébrée, et là elle est célébrée en grande pompe. C'est peut-être aussi lié au fait que Einstein on the Beach ait été remonté avec sa chorégraphie, etc. Bon,
on the Beach, l'opéra, Bob Wilson à mise en scène, Phil Glass à la composition et Lucinda Childs à la chorégraphie. Le spectacle qui a été recréé en 2006, 2007, 2008, 2009, je sais plus, enfin qu'on a vu,
je crois 11 ou 12,
oui, 11 ou 12, je sais plus. Voilà, on avait eu la chance d'aller le voir à Montpellier, puis c'est parti,
venu au Châtelet.
Et puis à Amsterdam, à Tokyo, à Séoul, à Londres, enfin dans le monde entier. Et donc Lucinda Childs, effectivement, a peut-être bénéficié,
je pense,
de cette reprise.
Absolument. Alors donc là, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a des chorégraphies récentes, on a des chorégraphies historiques, il y a des expositions, il y a même une création. Donc il y a les Early Works qui se jouent donc jusqu'au 30 septembre au Centre National de la Danse et puis à la Commune à Aubervilliers, avec deux programmes, des pièces qui sont des années 60 et 70. Moi, j'en ai découvert trois la saison passée à la Fondation Vuitton, qui sont Pastime, Carnation,
Vous en prie.
et Museum Peace, qui sont interprétés aujourd'hui par sa nièce, Ruth Childs, qui reprend un peu le flambeau de, pour faire vivre le répertoire de sa tante. Et c'est des pièces qui sont d'une drôlerie, d'une audace et d'une finesse, je dois dire, absolument étonnante. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour dans ces pièces-là. Il y a la deuxième période, hein, quand elle rencontre, Bob Wilson et Philip Glass, avec qui elle va travailler. Et donc, c'est là qu'elle crée Dance, qui est vraiment son chef-d'œuvre, avec le dispositif filmique de Sol LeWitt. Donc ça va se donner aussi.
Dance, on va le revoir.
C'est un chef-d'œuvre. C'est une chorégraphie qui est à la fois abstraite et totalement hypnotique, avec trois sections de 20 minutes, où par d'infinies variations, les mouvements se transforment et surtout se régénèrent. Et il y a une vitalité, une lumière et une puissance qui se dégagent de cette apparente simplicité qui sont vraiment galvanisantes et grandioses. Ça, c'est jusqu'au 3 septembre au Théâtre de la Ville.
Au 3 octobre au Théâtre de la Ville,
puis du 6 au 7 octobre à Saint-Quentin.
Ça, c'est vraiment... Il faut dire que c'est le ballet de l'Opéra de Lyon qui danse.
Absolument.
Dance.
Voilà, il y a une exposition aussi au CND jusqu'au 17 décembre où on peut voir des archives. Il y a aussi à la Galerie Tadeusz Ropak une exposition avec Sol LeWitt où on voit le développement de leur méthode graphique à l'un et à l'autre. Il y a Available Light qui va se donner aussi, qui est une pièce de 83 avec la scénographie de Frank Gehry et la musique de John Adams. Il y a une création aussi, une semi-création. C'est assez excitant en fait. C'est sur la Grande Fugue opus 133 de Beethoven avec La Grande Fugue de Kersmaecker, qui est un ballet aussi très beau qui s'était donné l'année dernière à l'Opéra de Paris de 92, La Grande Fugue de Maggie Marin et sa star qui date de 2001, et La Grande Fugue de Lucinda Childs qui sera créée pour l'occasion avec aussi les danseurs du ballet de l'Opéra de Lyon. Et il faut absolument signaler un ouvrage majeur, Voilà, celui de notre camarade en dispute Corinne Rondeau qui a été écrit donc par elle et qui moi vraiment m'a ouvert les yeux sur l'importance de son travail qui écrit de façon très sensible, je trouve, et en même temps, avec toute sa finesse et son intelligence et sa précision, le travail et l'œuvre de Lucinda Childs, c'est aux éditions du CND. Voilà, c'est CND édité par le CND.
Cette biographie, monographie de Lucinda Childs par Corinne Rondeau. Et il faut dire que le CND Pantin a rouvert ses portes, lui aussi, le week-end dernier, beaucoup de réouvertures et qui a un programme absolument magnifique qui s'étale sur plusieurs semaines. Oui. On va revoir notamment Mathilde Monnier, elle aussi, dans ses pièces les plus anciennes, Maggie Marin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont émergé aussi dans les années 80, c'est riche pour la danse en France et qui vont, qui proposent. Il y a un très, très, très riche programme au CND, donc avec beaucoup de Lucinda Childs dedans, ce qui est formidable. Tout ça, ce portrait Lucinda Childs, c'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Paris, nous allons y retourner dans quelques minutes. On parlera de l'Odéon, même si c'est un spectacle en tournée, Don Juan. Mais sortons un peu de Paris grâce à vous, Fabienne Pascaux. Allons à Strasbourg. Sauf que le TGV est encore plus rapide maintenant.
Exactement. Donc c'était la première année vraiment de Stanislas Nordet. Et il rend hommage à quelqu'un qui l'a beaucoup aidé. C'est Jean-Pierre Vincent, qui l'avait pris comme artiste associé du temps où il dirigeait Nanterre. Et
Après avoir dirigé le TNS, notamment.
Exactement. Donc, vous avez raison de dire ça parce que quand Jean-Pierre Vincent et toute sa vieille bande, Chambaz, Jean-Paul Chambaz ou Bernard Chartreux viennent saluer 30 ans après, à la fin du spectacle, c'est très émouvant. Parce qu'ils ont vieilli, bien sûr, comme nous tous, mais ils ont encore cette énergie, cette pêche formidable. Et moi, ça m'a bouleversée parce que la longévité de Jean-Pierre Vincent et son dynamisme en matière de théâtre sont quand même quelque chose de magnifique.
La longévité dans la qualité, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est ça qui est formidable.
Et dans l'imagination, par exemple, cette Iphigénie en Tauride, moi je l'avais vue mise en scène par Gruber dans le cadre du Festival d'automne à la fin des années 80. C'était, je me souviens d'une chose totalement magique, apaisée, méditerranéenne et belle. Et le spectacle de Jean-Pierre Vincent est tout aussi magnifique sur cette pièce de Goethe que Goethe a écrit en 1802, qu'on a vue à la Comédie Française d'après mes recherches.
Ah bon?
recherche, mise en scène par Jean Lionel en pleine occupation en 1942. Donc c'était quand même, ça avait dû faire bizarre de monter Goethe à la Comédie Française sous l'occupation, en 42. Et qui est une pièce, justement, d'une luminosité, d'une rationalité, d'une ouverture, d'une tolérance rare. Parce que ça raconte Iphigénie en Tauride, ça s'inspire de Ripide. Alors, évidemment, Iphigénie, sacrifiée par son méchant papa, Agamemnon, pour s'attirer des vents propices à la guerre de Troie, mais finalement, elle a été sauvée au dernier moment. Elle a été sauvée et transportée miraculeusement en Tauride, où elle est prêtresse d'un temple et courtisée évidemment par le roi de la Tauride, qui veut absolument l'épouser et qui pour elle a renoncé à un droit sacré qui était de sacrifier tous les étrangers qui débarquaient en Tauride. Grâce à cette prêtresse d'une ouverture d'esprit rare. Et finalement, elle ne veut pas l'épouser. Donc il lui dit, si tu ne veux pas m'épouser, ma belle, je vais recommencer à tuer les étrangers qui débarquent en Tauride. La Tauride étant la Crimée d'aujourd'hui. Pas de chance, quels sont les étrangers qui débarquent ? Oreste et Pylade. Le frère même d'Iphigénie, cas de conscience. Et on va voir que par sa raison, par sa tendresse, par sa clairvoyance, par sa bienveillance, eh bien, Iphigénie va réussir à rétablir, sans épouser le roi, le droit d'accueil des étrangers et la survie de ces étrangers. Alors, Iphigénie refuse de mentir. Iphigénie est très fière d'être femme et femme jusqu'au bout des ongles dans l'esprit, la rationalité, la simplicité, la clairvoyance des femmes. C'est un hommage aux femmes que Goethe a écrit en 1802 d'un féminisme rare. Et c'est surtout interprété par Cécile Carzia-Vogel, que je n'aime pas toujours comme comédienne, mais qui là, vraiment, est d'une finesse, d'une bonté. Elle domine la pièce, elle est d'une bienveillance, d'une clairvoyance tragique. Elle est magnifique.
Non, on a hâte de voir ce spectacle. Iphigénie en Tauride de Goethe, mise en scène Jean-Pierre Vincent. Ça s'est terminé hier à Strasbourg. La tournée se poursuit à Lille, au Théâtre du Nord du 5 au 9 octobre, au Gymnase à Marseille du 11 au 15, à Belfort au Granit les 3 et 4 novembre, à Caen au Théâtre de Caen du 9 au 11 novembre, à la Comédie de Genève du 15 au 19 novembre, et puis à Paris, ce sera au Théâtre de la Ville du 23 novembre au 10 décembre pour cette Iphigénie en Tauride.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant, en nous rendant à l'Odéon dans sa salle du 6e arrondissement où se joue actuellement Don Juan de Molière dans une mise en scène de Jean-François Civadier avec Nicolas Bouchaud dans le rôle titre.
En ce cas, monsieur, je vous dirais franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés, comme vous faites.
Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse pour toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux ! Non ! Non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence où elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rendre à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement.
vous fait sourire, Fabienne Pascaud ?
Oui, parce qu'il en rajoute, quoi.
Ça, c'est sûr. Il en rajoute, Nicolas Bouchaud.
Et c'est ce que je regrette dans le spectacle.
Bon. Bon, ben voilà, c'était l'analyse de Fabienne Pascaud. Non, vous pouvez développer, Fabienne, allez-y.
Non, mais je vous laisse faire votre introduction très brillante, comme d'habitude.
Non, mais j'ai fait une introduction à minima, parce que le temps nous presse ce soir, mais je peux bien en dire... Je vais vous dire, j'aurais dû adopter la fameuse méthode Pascaud, qui consiste à aller voir un spectacle en n'ayant pas très envie. Mais le problème, c'est que moi, j'étais très impatient de découvrir ce nouveau Molière mis en scène par Jean-François Sivadier, parce que je fais partie de celles et ceux qui avaient beaucoup aimé son Misanthrope, il y a quelques années, avec le même Nicolas Bouchaud, qui c'est Alceste. Et alors, mon impatience était-elle trop grande? Mais ça a été pour moi une très grande déception. En effet, parce que ce que j'aime habituellement, et chez Sivadier, et chez Bouchaud, était là sans y être. J'ai l'impression que je connaissais les lieux, les gens. Mais tout ça était comme décalé, pas tout à fait en place.
Décentré.
Décentré.
Oui, c'est vrai, le spectacle n'a pas trouvé son centre.
Mais rien n'a fonctionné. Alors, soit ils sont passés à côté, soit c'est moi qui suis passé à côté, hein, ce qui est tout à fait possible. Même Marie Vial, que j'aime tant, et là, une Elvire qui est tout en force, elle qui a une si grande finesse d'interprétation, de jeu. Là, je trouvais notamment sur sa première scène que ça n'allait pas du tout. Je me demandais qui était cette comédienne dont je plaisante, j'avais reconnu.
Non, mais c'est pas elle, c'est pas elle. C'est pas de sa faute du tout.
Ah oui, c'est pas elle, c'est elle. La chanson, à un moment donné, Nicolas Bouchaud chante du Marvin Gaye. Alors pourquoi pas, sauf qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Quant à chanter, il faudrait bien chanter, surtout quand on se mesure à un roi de la soul. Donc c'est quand même un peu compliqué de reprendre de façon sympathique, un peu karaoké. Mais là, tout d'un coup, le séducteur, il prend carrêtement du plomb dans l'aine.
Moi, c'est vraiment... Il a pris quelques kilos en plus.
Bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, l'impression d'un...
Pas le physique, Fabienne. Non.
Bah, quoique, pour Don Juan, quand même. J'ai l'impression d'un rendez-vous raté. Voilà.
Bien, moi, ce que j'aime dans la pièce de Molière, c'est qu'elle est sèche. C'est vraiment...
Ah oui. À l'os.
À l'os, ouais. Voilà, à l'os. Et quand on nous parle toujours de Büchner et de son Voïtsek, certes magnifique, écrit par fragments, bah, les fragments, on voit que cette écriture-là, fragmentaire, sans vraie intrigue, elle est déjà dans le Don Juan de Molière. Qu'est-ce que ça raconte? L'histoire d'amour, ça pourrait être le fil conducteur, l'histoire d'amour entre Elvire et lui, qu'il détourne du couvent, et puis une maîtresse ancienne et la mort par le commandeur. Mais tout ça, c'est des bouts de séquence, c'est rien du tout. Ça ne tient que par la parole, que par le verbe, que par l'audace formidable de Molière à dénoncer la religion, à faire preuve vraiment par rapport aux puissants, par rapport à la cour. C'est une machine de guerre.
Ah,
son Tartuffe a été refusé l'année précédente, et là, il dénonce encore plus fort.
Il en rajoute.
Donc,
lui, il en rajoute bien. Si je peux
voilà.
Dire.
Il est d'un courage phénoménal, Molière. Et ce qu'il ose dire, il y a peu d'auteurs qui oseraient le dire aujourd'hui. Et finalement, là, tout ça, c'est enrobé chez Sivadier par un théâtre populaire sympa. C'est-à-dire que quand Bouchaud arrive, bon, ben, il fait semblant de séduire deux spectatrices. Il donne un bouquet de fleurs. Puis pour montrer qu'il est volage, ben, il reprend le bouquet de fleurs et puis il le donne à une autre. Tout ça est sympathique. C'est bourré de gadgets. Par exemple, il y a ce chronomètre en haut de la scène qui met 60.
Le décompte.
Ce décompte.
67
je me suis dit,
ou 68.
Voilà. Ouais. Je me suis dit, chic, il n'y a plus que 60 minutes. Pensez-vous, non? C'est le nombre de fois où est prononcé le mot ciel pendant le spectacle. Bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a plein d'affaîtrises comme ça, plein de coquetteries. Alors certes, il y a cet espace magnifique, il y a ce cosmos, si c'est assez beau, qui évoque Galilée.
Je faisais un peu la grimace, oui, pour ça.
Qui évoque Galilée, qu'a mis en scène aussi. Sivadier. Mais là, je trouve que, comme le disait Anna fort justement, c'est décentré, c'est enrobé, c'est gras, c'est mou, et ça dit pas grand-chose.
Décentré, Anna Sigalevitch.
Oui, bon, moi je vais quand même un peu défendre, parce que même si je suis pas complètement convaincue par le spectacle non plus, je trouve qu'il y a quand même de très bonnes idées, et je trouve qu'on en... Enfin,
lesquelles?
Alors, je trouve qu'il arrive à vraiment faire entendre le texte aujourd'hui, il résonne aujourd'hui, le côté politique de Don Juan qui se bat contre l'obscurantisme. Mais d'ailleurs, ce spectacle est très, très empreint de Galilée, hein, où il se battait contre le pouvoir théocratique, enfin, où c'était vraiment la science contre le pouvoir théocratique. On a ça aussi quelque part dans le spectacle, avec ces planètes qui représentent la science. Et même, je dois dire, moi j'ai pensé à la culture quand on voit les statues dans un musée au fond, où c'est ce libre penseur qui refuse qu'on lui impose quoi que ce soit, qui refuse le monde tel qu'il est et qui refuse de renoncer. Je trouve que ça, on l'entend vraiment dans le spectacle. Bon, moi j'ai beaucoup, enfin je suis inconditionnelle de Nicolas Bouchaud. Voilà, je c'est un acteur, que c'est un de mes acteurs préférés. Mais on l'aime infiniment, etc. Et ben c'est pas Don Juan en fait. Le problème c'est que il n'est pas Don Juan pour moi. C'est-à-dire qu'il est Alceste complètement. Mmh. Il pourrait être Tartuffe. Il pourrait être, il serait génial en Tartuffe.
Ah, oui.
Il pourrait être Arnolphe. Il peut être Harpagon. Enfin, il peut être beaucoup de personnages de Molière. Mais il n'est pas Don Juan et c'est quand même un problème parce que il est trop raffiné. Il est trop raffiné et il est trop fédérateur. Il veut s'expliquer. Alors que Don Juan ne veut pas s'expliquer. Nicolas Bouchaud, il jouit des mots. Alors que Don Juan, il jouit des actes. Il fait. Alors que Don Juan, par exemple, ce principe de Sivadier qu'il y a dans tous ses spectacles, mais, et qui marche très souvent. Moi, j'adore Sivadier
aussi. Moi aussi, hein.
Voilà, mais les adresses publiques, le fait de communiquer, etc. C'est pas ça. Enfin, pour moi,
Don Juan, c'est pas quelqu'un qui se compromet.
Mais non, il explique pas. Non. Il trace sa route, il avance. Voilà. Et là, il y a pas ça dans le spectacle. Et donc, on passe à côté, je pense, d'une caractéristique essentielle du personnage de Don Juan. Et c'est pour ça que le spectacle est décentré. Parce que sur Sganarelle, ça fonctionne très bien le fait qu'il s'adresse au public.
Oui, oui.
Qu'il soit comme ça tiraillé entre le monde, donc les spectateurs, et son maître, Don Juan. Ça marche. Mais ça ne marche pas sur le personnage de Don Juan. Voilà.
Et
puis alors, pourquoi aussi cette scène de Mathurine en breton, bretonnant, mais ça veut dire quoi? Il s'amuse à quoi, Sivadier, là? Il voulait flatter les spectateurs de Rennes à la création?
C'est la scène du patois, donc pourquoi pas, mais...
Oui, mais là aussi, ça dure...
Ça dure des plombs,
ça dure des plombs.
Ah non, mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai que j'avais aussi
donc,
envie de...
Donc tout le côté coupant, et vraiment ce que disait très bien Anna, le fait que Don Juan soit quelqu'un qui fonce, qui ne se retourne pas, et ou alors qui prend vraiment le chemin de l'hypocrisie, mais comme une dernière insulte au monde et au catholicisme et à Dieu, c'est dans la rapidité que ça doit se faire.
Pour le coup, pour une fois que vous n'en avez pas parlé, c'est moi qui vais dire que ça dure 2h30 et que c'est quand même... une demi-heure de trop, parce qu'effectivement, les ajouts...
Trois quarts d'heure.
mais les ajouts ici sont particulièrement malvenus, effectivement, dans cette pièce qui trace. Je voulais effectivement mettre de côté, si je puis dire, Vincent Guédon, qui joue Sganarelle, vous l'avez évoqué à l'instant. Parce que vous dites, Marie-Vielle, c'est pas sa faute. Alors, j'entends bien que on joue comme on est dirigé par son metteur en scène et dans une certaine lecture de la pièce. Mais que vouliez-vous dire à propos de Marie-Vielle?
Mais qu'elle joue très bien, comme Nicolas Bouchaud joue très bien. C'est juste que les directions qui sont prises ne fonctionnent
alors.
Pas. Voilà, pour moi, c'est juste ça.
Oui, sauf qu'il co-signe un peu la mise en scène quand même, Nicolas Bouchaud.
Ah bon ?
Il est dans la direction artistique aussi. Donc, il est partie prenante.
Ah. Non, mais je ne dis pas qu'il n'a pas de responsabilité. Hein, mais... bon, en fait, mais bon, c'est comme ça.
C'est un fait, oui, c'est collaboration artistique. Nicolas Bouchaud et Véronique Timsit sont indiqués. La scénographie sont très nombreux. Il y a Daniel Jeannetot, Jean-François Sivadier et Christian Tirole. Ce sont les habituels. Lumière de Philippe Berthomé, pardon. Que je sauverai aussi. Moi, j'étais pas fou de cette scénographie, contrairement à vous. Elle me semblait bien.
Elle fait rêver, quand même.
Ah bon?
Elle fait rêver, oui.
Ah,
ça
oui,
ça replonge dans l'univers. Parce que ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on ne croit pas une seconde. Elle est complètement matérialiste, quand même,
oui.
La mise en scène de Sivadier. On ne pense pas du tout à une quelconque transcendance, jamais.
Ah non.
Donc là aussi, il n'y a même pas cet écart-là. Il n'y a pas... pour qu'il y ait Don Juan, il faut qu'il y ait athéisme, il faut qu'il y ait Dieu aussi. Et là, pas une seconde, on sent la présence. Donc, le cosmos, c'est ça aussi. Mais moi, ça m'a un peu bluffé quand je suis arrivée dans la salle.
Bon, bah écoutez. Est-ce que vous avez compris... Pardon, mais c'était un peu anecdotique. Mais est-ce que vous avez compris un mot de ce que dit le commandeur, puisque la voix est trafiquée? Moi, je n'ai pas compris un mot de ce que...
Non, mais comme on connaît par cœur, qu'on a appris ça à l'école...
On peut le connaître et le reconnaître, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas par cœur, Fabienne Pascaud. Non, mais sérieusement, c'était compréhensible?
Rien.
Non, mais c'est un problème quand même aussi. Au-delà de la représentation, au-delà de la représentation du commandeur qui lui fait plutôt rire que peur.
Oh.
Non, cette statue.
Bon, ça va.
Bon, d'accord.
Ça m'a pas plus dérangé que ça. Non, il y a un petit détail que j'ai bien aimé.
Alors, donnez-le.
Justement pour Marie Vial, parce que donc elle joue donc en plus de jouer Elvire, elle joue Mathurine. Et je pense que c'est un clin d'œil à Mozart que je trouve amusant, le fait que Elvire empêche Zerlin de se faire avoir par Don Juan. Là, du coup, c'est Marie Vial, donc Elvire déguisée en Mathurine et qui vient sauver Charlotte, et bon, je trouvais ça bien.
Mais il connaît quand même des opéras, Jean-François Sibadier.
Le monte à Aix l'été prochain, je crois, dont je vais venir.
Ah bon?
Attendez, non, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Non,
c'est possible. Oulala,
Ou alors, je suis quelque pas chose. Sûre.
C'est une information confidentielle que vous nous dévoilez.
Allez cool,
savoir. Bon, on vérifiera ça. Il y a toujours, de toute façon, un Mozart à Aix, à savoir qui le monte et lequel. Pour l'instant, mais de toute façon, on est déçus que par ceux qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Jean-François Sibadier et Nicolas Bouchaud. Ce dont Jean ne m'a pas convaincu, mais voilà, on engage.
On attend la prochaine pièce.
Oui, et puis voilà, celles et ceux qui vont le découvrir jusqu'au 4 novembre. Au théâtre de l'Odéon, théâtre de l'Europe plus exactement, et puis voilà, il y a beaucoup de gens qui sont heureux de voir ce spectacle-là. Il y a une grande tournée qui se poursuit, ce sera à Vidy, à Lausanne, du 23 novembre au 3 décembre, et puis les prochaines dates en France, du 7 au 17 décembre au Grand T à Nantes, au TNS à Strasbourg, on y revient du 3 au 14 janvier, et puis du 19 au 28 janvier à la MC2 de Grenoble. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil passé à Yannick Jolin, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu de vendredi soir, pour enfin en connaître la réponse, Lucille Gomeau.
Alors la question c'était, dans le salon de 1845, Baudelaire évoque dès les premières phrases un peintre qui est selon lui, je cite, le plus original des temps anciens et des temps modernes, qui est-ce? Et la réponse est Delacroix.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour une exposition, là encore, spectaculaire, Second Empire, 1852-1870, une exposition qui ouvre ses portes demain et qui se poursuivra jusqu'au 15 janvier au Musée d'Orsay à Paris. Quelle est la question, Lucille?
La question est, Émile Zola a fait le roman du Second Empire, de son avènement et sa chute, en l'incarnant dans un personnage féminin. Qui est-il?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de Lucille Gomeau.
Hello!
Et au bout du fil ce soir, Yannick Jolin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conteur, comédien et metteur en scène. Vous œuvrez notamment depuis plus de 25 ans au festival Le Nombril du Monde à Pougne-Hérisson. Vous avez écrit un spectacle qui va se jouer à partir du 3 octobre prochain au théâtre Jean Lursa, scène nationale d'Aubusson. Le spectacle s'appelle Les Oisives. C'est une coproduction de votre compagnie Le Beau Monde et d'Aubusson, avec à la mise en scène Anne Marcel. Alors Les Oisives, c'est une conversation entre deux femmes. Je sais que vous avez eu l'idée de ce texte alors que vous étiez dans le Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas qui vous a inspiré ce texte?
Mais je lisais Albert Cosseri, qui est cette espèce de d'ovni littéraire qui a passé 45 ans de sa vie dans une chambre de l'hôtel La Louisiane à Saint-Germain-des-Prés, qui est un homme qui a pendant des années des choses comme le sommeil permet de penser d'une autre manière, on se situe hors du monde, ne rien faire c'est un travail intérieur, l'oisiveté est indispensable à la réflexion.
C'était il y a plus de 30 ans. Du coup, comment a évolué votre rapport à vous, Yannick Jolin, à l'oisiveté?
Comme un homme qui brasse beaucoup d'air dans sa vie, quoi, hein, comme un homme très occupé. Donc, j'avais ce projet sous le coude depuis des années. Et en fait, il a vraiment fallu, à un moment donné, mettre en route la chose et mettre en route quelque chose sur l'oisiveté. Il faut y mettre une énergie folle. Donc, j'ai décidé d'abord de ne pas jouer dedans, de n'être qu'à l'écriture. Donc j'ai confié à deux femmes formidables, Angélique Clairant et Valérie Puech, le soin de jouer. Et en plus, ces deux femmes qui s'aperçoivent que très peu de femmes ont écrit sur l'oisiveté. Comme si l'oisiveté n'était pas du ressort féminin.
L'oisiveté, c'est quoi pour vous? C'est une valeur? C'est une manière de vivre?
Je crois qu'il y a quelque chose de la spiritualité, c'est-à-dire que chez les Romains ou les Grecs, l'osium des Latins était vraiment ce temps de retour à soi. C'était pas le temps de rien faire, c'est un temps de remise en contact avec soi-même, quoi. Et dans notre société où on nous incite toujours à vivre à la périphérie de soi, je crois que cet osium va devenir un enjeu considérable dans les temps à venir si on ne veut pas plonger vers la barbarie. Je crois que cette nécessité à se rapprocher de soi-même, elle est plus que jamais importante, plus que jamais fondamentale.
Donc vous le disiez, sur scène, il y a deux femmes qui s'essayent toutes les deux à l'oisiveté. Qu'est-ce qui les différencie, ces deux personnages?
Il y en a une qui est... En plus, je n'ai eu qu'à tirer les fils de leur vraie personnalité. Il y en a une qui est une oisive naturelle, mais qui a du mal à l'assumer devant le monde, quoi, hein, aux yeux du monde. Puis la deuxième, qui est vraiment l'hyperactive, qui, elle, est obligée d'acheter des heures d'oisiveté à coût de 100 euros l'heure de méditation, de Feldenkrais ou de Tai Chi.
C'est un spectacle qui est destiné à être joué dans tout type de lieu. Quel est le dispositif de mise en scène qui va être mis en place à Aubusson, Yannick Jolin?
Alors c'est vraiment un dispositif très simple avec juste une série de tapis un peu orientaux, peut-être qui sont proches d'une marque à la Causerie, et puis en même temps des projecteurs derrière à vue, deux fauteuils, un petit écran vidéo et très peu de choses. Donc c'est un dispositif, oui, on va pouvoir les jouer dans les endroits industriels, par exemple on va les jouer dans le lieu où on fabrique ces fameuses charentaises Rondino, la magnifique charentaise qui est vraiment le symbole aussi de l'oisiveté et du bien-être, voilà, mais aussi dans des lieux décentralisés, puisque ça va se jouer en Ardèche pendant une dizaine de dates au mois de novembre, et à la fois dans les salles de spectacle plus classiques.
La charentaise, elle était dans votre texte dès le début, dès les années 80, Yannick Jolin?
Oui, la charentaise fait partie de mon fantasme de vie réussie.
Dans le dossier consacré au spectacle, il y a une sorte de clause morale que je soumets. Il ne serait pas convenable pour des oisifs de se consacrer plus de 3 jours par semaine au négotium au détriment de l'otium. Il sera donc entendu que le nombre de jours de représentation semaine ne pourra excéder 3. Est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est un vrai principe, Yannick Jolin?
Non, c'est un vrai principe. C'est-à-dire que les filles, en même temps, ont vraiment décidé que ce spectacle il devait pas y avoir de différence entre l'idée qu'on a de ce spectacle et la manière de vivre ce spectacle-là. Donc, elles ont toutes les deux, et moi j'étais assez en harmonie avec ça, décidé que, oui, ça pourrait pas jouer de trop, faut pas faire des séries de fous. En même temps, c'est une manière de se dire, on va jouir de ce spectacle en le faisant.
Un grand merci à vous, Yannick Jolin. Les Oisifs, c'est du 3 au 5 octobre prochain au théâtre Jean Lursa, scène nationale d'Aubusson, dans une mise en scène d'Anne Marcel, avec, vous l'aviez dit, Angélique Clairant et Valérie Puech. Et puis le spectacle sera ensuite en tournée, notamment à Bressuire, à Privas ou encore à Cusset.
Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Como, Anna Sigalevitch et Fabienne Pascaud, d'avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions. Un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. Podcast à part pour le petit salon de Lucille Como également. Dispute possible aussi grâce à Daniel Finot, Olivier Guérin, Virginie Le Duo, Josué Morel et Boris Pinault qui conçoivent et préparent cette émission à mes côtés. Prise de son assurée ce soir par Nicolas Simoni. Réalisation Olivier Guérin. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma. Je serai en compagnie de Charlotte Garçon, Corinne Rondeau et Antoine Guillot. À notre affiche, Aquarius de Kleber Mendoza Filho, Fuoco Amare par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi, et puis la reprise en salle, version restaurée de Mauvais Sang de Léos Carax. Tout cela c'est pour demain. D'ici là, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, les discussions du soir, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.